Claire Viget.
Bonsoir, Union Neuchâtel entre dans l'arène dans une heure. Les basketteurs de la Riveraine disputent le Final Four de la SBL Cup. Ils affrontent Vevey et Tabor Sefolosha ce soir en demi-finale à Montreux. On ne les avait plus vus depuis 3 ans. Ski et Mushers sont de retour dans les Franches-Montagnes. Seigne-Léger accueille ce week-end la 50e édition de la course de chiens de traîneau. Le HC La Chaux-de-Fonds est en train de se faire surprendre chez la Lanterne Rouge. Les Abeilles perdent 3-0 sur la glace des Ticino Rockets en Swiss League de Hockey. Sur glace. On fait le point sur cette partie en direct dans la page sport. Et puis la journée de demain débutera sous la grisaille. La couverture nuageuse devrait se dissiper l'après-midi. De moins 7 à moins 2 à l'aube, le mercure devrait osciller entre moins 1 et 1 degré en seconde partie de journée. Union Neuchâtel est d'attaque. Les basketteurs neuchâtelois jouent ce soir à 19h leur premier match du Final Four de la SBL Cup. En demi-finale, les joueurs de Mitar Trivunovic devront se défaire de Vevey Riviera Basket pour se qualifier pour la finale face à Massagno. Les Tessinois se sont eux qualifiés cet après-midi grâce à leur victoire 76-66 face au Lyon de Genève. Les fans de basket n'auront pas manqué l'information de la semaine. L'arrivée de Tabor Sefolosha, ex-joueur suisse de NBA, dans les rangs de Vevey, adversaire d'Union ce soir. L'entraîneur Mitar Trivunovic n'en fait pas toute une histoire.
I don't know if he will change too much game, but he changed ambient, you know.
Je ne sais pas s'il va changer le match, mais il va changer l'ambiance. C'est un bon signe pour tout le monde, pour le basket suisse et pour n'importe quel joueur qui joue dans cette ligue. Il y aura probablement beaucoup de monde qui va suivre ce match ou voir des extraits sur YouTube. C'est une bonne nouvelle.
In life and from in YouTube, and this is good for everybody.
Un joueur disputera son premier match sous le maillot neuchâtelois ce soir. Justin Roberts, l'Américain, a été embauché cette semaine par le club après la blessure de Nate West. Le coach d'Union nous parle de l'intégration du nouvel élément dans l'équipe. On retrouve Mitar Trivunovic.
Tout le monde a vu que grâce au progrès de Nate West, nous commençons à devenir une bonne équipe. Et c'est la même chose avec Justin Roberts. C'est un bon joueur et il peut apporter beaucoup de choses. Il est athlétique, très rapide et joue bien en défense. On doit maintenant essayer de l'intégrer dans le groupe.
Des propos traduits par Loïc Georgi, Vevey Union Neuchâtel. Un match à suivre ce soir dès 18h45 en direct sur RTN. Les aboiements des huskies, samoyèdes et autres malmoutes résonnent dans les Franches-Montagnes. Les courses de chiens de traîneau sont de retour à Seigne-Léger après 3 ans d'interruption. Elles ont débuté aujourd'hui et se poursuivent demain. 110 mushers suisses et européens y prennent part. Cette édition marque les 50 ans de la manifestation. Les retrouvailles avec les animaux, leurs maîtres et le public réjouit la présidente du comité d'organisation, Toinette Vizard.
Ça fait vraiment plaisir d'entendre les hurlements des chiens le matin quand on se lève, de voir le monde qui arrive. Toute cette effervescence sur la place du marché Concours, c'est très satisfaisant.
Maintenant qu'on y est, qu'est-ce qui vous avait manqué le plus? Une sensation comme ça oubliée ces 3 dernières années?
Je crois que c'est cette sensation de rencontre, d'amitié entre des gens de différents milieux qui se retrouvent autour de cette manifestation, que ce soit du côté des mushers, qu'on a plaisir à retrouver parce que c'est souvent des habitués des courses. Et puis aussi entre nous, les bénévoles, de se retrouver, ça fait du bien.
Quel retour vous avez eu des mushers qui ont déjà parcouru les différents tracés?
On avait un peu d'inquiétude vu le manque de neige, mais là, les retours sont très satisfaisants. Ils disent que la piste était bien dure, elle a visiblement bien tenu. Heureusement, il fait froid. Donc là, ils étaient très très contents. En tout cas, sur la boucle de 8 km, on a eu des retours très positifs. Donc là, on a bien démarré et puis on souhaite que ça poursuive comme ça pour le week-end.
Toinette Vizard qui répondait à Nicolas Meusy. Et en plus des courses, plusieurs animations sont prévues, comme des balades en traîneau ou une exposition sur les 50 ans de la manifestation. Un Beaubourg rempli de belles maisons, le Locle a vécu son essor au 19e siècle. Un développement urbanistique exposé dès ce dimanche au moulin souterrain du Col des Roches. 60 gravures et autres iconographies sont à découvrir jusqu'en octobre. Elles proviennent des collections du musée d'histoire du Locle et de donations. La conservatrice des moulins souterrains, Caroline Calame.
On commençait vraiment à avoir un corpus intéressant autour du Locle et de son développement. Et on a eu l'idée de faire cette exposition, puisque normalement les gravures, qui sont des documents fragiles, restent plutôt dans les tiroirs pour être bien protégées. Donc c'était l'occasion de les montrer au public.
Vous parlez, pour évoquer justement la ville du Locle, d'un bourg rempli de belles maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé?
Alors, il y a toujours de belles maisons. Les belles maisons qu'un voyageur évoque au XVIIIe siècle, elles sont dues aux horlogers aisés qui vont construire de belles demeures. Alors, certaines sont encore là, heureusement. D'autres, évidemment, ont souffert du modernisme, du changement, puisqu'évidemment, certains immeubles ont été démolis au cours du XXe siècle.
Des propos recueillis par Maxime Crevoisera. Le vernissage de l'exposition a débuté tout à l'heure à 18h au Moulin Souterrain. Et notez que cette collection est également au cœur de la dernière publication de la nouvelle revue neuchâteloise. De médiateur et surveillant à communicateur, le Laténium teste depuis quelques semaines, à l'occasion des Dimanches Malins, les notions acquises lors d'un cours au musée de la communication à Berne. Le but est d'être plus présent pour les visiteurs, leur proposer des animations, être là pour dialoguer et répondre aux questions. Daniel Dan Agnolo, responsable de la médiation culturelle.
C'est un début très modeste, c'est tous les dimanches après-midi jusqu'en été. Il y a une personne qui est dans une salle de l'exposition temporaire et là, on a quelques jeux, c'est-à-dire on peut faire des collages, on peut peindre, on peut dessiner, on peut colorier. Il y a un petit bricolage de construire un pont celtique. Il y a une pêche miraculeuse. Ça, c'est les jeux qu'on a actuellement et on essaye de faire encore d'autres choses, de développer encore d'autres petits jeux pour les enfants et pour les adultes. Et si jamais les adultes ont des questions sur l'exposition, ou bien aussi les enfants, ils peuvent poser la question à la médiatrice et elle répond.
Le concept de Dimanche Malin se poursuivra jusqu'à l'été. Si la direction est convaincue, les surveillants et les guides pourraient se transformer en communicateurs et être présents chaque fois que le musée est ouvert. Avantage pour eux, ils ne travailleront plus sur appel. De Washington à Moscou, en passant par les Nations Unies, de nombreux dirigeants étrangers ont dit leur effroi aujourd'hui après les deux attaques successives commises par des Palestiniens qui ont fait 7 morts et 2 blessés à Jérusalem-Est. Ils ont lancé des appels à la retenue. Ceux qui criminalisent l'homosexualité ont tort, les mots du pape François dans une lettre publiée aujourd'hui. Le souverain pontife cherche à clarifier de précédents commentaires sur les actes homosexuels considérés comme un péché. Dans sa missive, il précise que dans l'enseignement moral catholique, tout acte sexuel en dehors du mariage est considéré comme un péché. Dans le conflit russo-ukrainien, Moscou a accusé aujourd'hui Kiev d'avoir frappé à dessein un hôpital dans la région de Lugansk, dans l'est séparatiste de l'Ukraine. L'attaque a fait 14 morts et 24 blessés parmi les patients et le personnel médical, selon la Russie, qui dénonce un grave crime de guerre. Réunis en assemblée à Bulach, les délégués de l'UDC ont adopté le nouveau programme du parti. Ils continuent de mettre l'accent sur la liberté et la sécurité. Le président Marco Chiesa a appelé le PLR à des apparentements de liste avec l'UDC pour les élections fédérales afin d'empêcher la gauche de progresser. Et les Verts étaient aussi en assemblée aujourd'hui à Genève. Les délégués ont apporté leur soutien unanime à la loi sur la protection du climat. L'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 doit enfin être ancré dans la loi. C'est ce qu'écrit le parti sur Twitter.
Sport.
Et à 18h08, c'est avec vous les sports, Léonard Reichen. Le résultat donné concernant le hockey sur glace entre le HCC et les Ticino Rockets dans les titres n'était pas tout à fait juste. Enfin, il était juste sur le moment, mais maintenant ça a changé.
Oui, alors comme dirait un certain collègue, ça change très vite en hockey sur glace. Alors on connaissait le miracle d'Orlikon, on connaissait le miracle au Mélèze il n'y a pas longtemps contre Holton. Et effectivement, le HC La Chaux-de-Fonds a complètement renversé la vapeur face aux Ticino Rockets, les Abeilles qui affrontent la Lanterne Rouge au Tessin. Le match a commencé à 17h. Daryl Jeanneret, on vous retrouve en direct de la Gotardo Arena d'Ambry et le HCC donc, qui revient de très loin dans cette partie.
Oui, bonsoir Léo, effectivement, ils reviennent de très loin et ben il est génial ce journal de 18h parce que on a loupé les 3 buts du HCC qui sont revenus à 3-3 alors qu'ils perdaient 3-0 et merci pour la dédicace Léo parce que oui, ça peut aller très vite en hockey sur glace et on est parti dans le journal de 18h et ben, le HCC en a mis 3 et donc parité ici à la Gotardo Arena avec maintenant un power play pour les Chaux-de-Fonniers. Sur ce tir de Sandrolden, le Norvégien, donc le match est relancé, mais ils nous ont habitués à ça, hein, Léo, vous le savez, beaucoup le savent, cette saison a des retournements de situation, et on en a vécu, plusieurs, et ce soir, on est mené 3-0, certes, par le dernier de la Ligue, mais on revient à 3-3, et il reste 5 minutes 24 à jouer dans ce tiers médian, et ensuite, il restera évidemment le dernier tiers, donc Il va se passer encore beaucoup de choses, mais heureusement, ils ont réagi les abeilles et pourvu que ça dure pour la suite de cette partie.
Merci beaucoup Daryl Jeanneret, vous étiez en direct d'Imbrie et on suit bien évidemment cette partie après cette page sport, après le journal. Le prodige du ski suisse est de retour aux affaires une semaine après une blessure contractée à Kitzbühel. Marco Dormat a remporté aujourd'hui le premier Super G de Coupe du Monde de Cortina d'Ampezzo. Il a devancé le Norvégien Alexander Kilde de 35 centièmes et l'Italien Mattia Casse de 49 centièmes. Loïc Georgi.
L'image avait fait trembler le pays tout entier la semaine passée sur l'exigeante Strive. Touché au genou gauche lors de la descente, Dormat avait fait une croix sur Schladming. Mais le Nidwaldien a signé un retour triomphal sur la piste d'Etofan. Avec son dossard numéro 14, il a skié une manche quasi parfaite, retrouvant son ski fluide et ses courbes précises pour devancer son grand rival Alexander Kilde. Marco Dormat décroche ainsi son 18e succès sur le cirque blanc et compte à nouveau plus de 200 points d'avance sur le Norvégien. Le tracé italien a aussi bien convenu à Justin Murizier, 10e à 1 seconde 05. Le Valaisan égale le 3e meilleur résultat de sa carrière dans la spécialité, signant son 2e top 10 de l'hiver en vitesse.
Un 2e Super G est au programme à Cortina demain à 10h15. Et chez les dames, Wendy Holdener est de retour sur le podium en slalom. Elle a pris le 3e rang de l'épreuve de Spindelhuv Mlin en Tchéquie. Elle termine à 1 seconde 31 de l'américaine Michaela Schifrin, la gagnante du jour. L'allemande Lena Dürr a pris la 2e place. 4 Suissesses ont terminé dans les points. Meilleur résultat en carrière pour Nicole Good, 12e. Elena Stoffel termine 16e. Michel Guizin, 18e. Et Camille Raste, 25e. Après avoir échoué 3 fois en demi-finale de Grand Chelem, Arina Sabalenka décroche enfin son Graal. La Bélarusse a remporté aujourd'hui l'Open d'Australie. Elle a battu la Kazakh Elena Rybakina en 3 manches, 4-6, 6-3, 6-4. Après un match très difficile, Arina Sabalenka a pu savourer Cécile Détra.
Pour battre Elena Rybakina, qui s'appuyait comme elle sur un énorme service suivi de grosses frappes, Arina Sabalenka a déployé un jeu très agressif. 17 aces au total et 51 coups gagnants pour 28 fautes directes. Grosse prise de risque donc de la part de la Bélarusse, ce qui a assurément offert un match plaisant au public. Toutefois, conclure pour s'offrir son premier majeur n'a pas été chose aisée. Il lui a fallu attendre la 4e balle de match pour pouvoir lâcher sa raquette et s'allonger au sol en larmes, les mains sur le visage.
Et avec ce titre, Arina Sabalenka devrait retrouver le 2e rang mondial lundi, son meilleur classement en carrière.